Bonjour à toutes et tous, Arlette Farah
et Fulgence Blas.
Et bienvenue à l'émission Regards croisés. Alors aujourd'hui, bien Fulgence, nous avons une heure bien pleine, hein, si on peut dire.
Deux invités. Le premier invité à la première demi-heure de l'émission. Tu vois, je ne me trompe plus. La première demi-heure de l'émission. Biba Tinga, qui est la présidente de l'association d'anémie, voilà, falciforme du Canada, qui va nous parler de cette maladie orpheline.
Un peu trop inconnue.
Oui, c'est ce qui fait qu'on l'appelle maladie orpheline.
Oui.
Et toi, tu...
Et moi, en deuxième invité, nous allons avoir Anna Lagacé-Dawson pour Tel Aide Montréal, qui est le plus vieux et le plus grand centre d'écoute au Québec. Donc, nous allons parler de tout ça et du besoin qu'on a de communiquer avec l'autre. Alors, on part en musique. Je te laisse nous donner le
nom. Oh oui, on part en musique tout de suite avec Young Boss, I Feel You et des... Tu connais cette pièce, toi?
Alors, j'écoute.
Boss a fait aider, voilà. Bon, merci de nous faire danser comme ça, mais maintenant on va parler de choses sérieuses, d'une maladie orpheline. Orpheline parce qu'elle n'est pas du tout connue cette maladie, même les médecins dans leur formation ne sont pas formés pour ça. Malheureusement, on a la présidente de l'association d'anémie falciforme du Canada au téléphone avec nous aujourd'hui, on la voit quand même à travers le téléphone. Bonjour Madame Biba Tinga.
Bonjour Madame.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Merci de m'inviter, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui.
Merci d'avoir eu le temps d'ailleurs de venir nous parler de cette maladie inconnue. Vous êtes la présidente, comme je l'ai annoncé, la présidente de l'Association d'anémie falciforme du Canada. Cette maladie, qu'on appelle aussi drépanocytose, c'est cette maladie où de l'hémoglobine qui cause la déformation des globules rouges, qui sont déformés, qui empêchent le transport efficace de l'oxygène aux organes du corps. Alors, comment vous êtes arrivé là? Comment vous êtes, disons, vous avez été particulièrement vous-même affecté? Et puis, il y a un de vos fils aussi qui est affecté. C'est la raison pour laquelle vous êtes très, 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 très engagé. Vous portez ce chapeau-là à travers tout le pays.
Oui, tout à fait. Je suis directement affectée par cette maladie, comme vous l'avez dit, parce que mon fils est né est née avec l'anémie falciforme, comme on dit au Québec, c'est plutôt anémie falciforme. Oui. Et puis, dans le reste du monde, c'est la drépanocytose.
Oui.
Alors, lorsque moi-même, donc pour qu'un enfant naisse avec la maladie, il faut que les deux parents soient porteurs. Oui. Mais on peut être porteur des gènes, mais on est sain, on n'est pas malade. Et puis, donc, mon fils, lorsqu'il est né, j'ai découvert, lorsqu'il avait environ 7 mois, qu'il était atteint de la forme SS, donc qui est la forme grave et puis qui crée des complications.
Wow.
Et ça a commencé comme ça, en étant parent, en voulant soigner mon enfant, lui donner une qualité de vie. Parce qu'on appelle aussi cette maladie la maladie de la douleur, parce qu'il y a beaucoup de crises de douleur. Ça se manifeste par beaucoup de crises de l'anémie sévère qui nécessite des transfusions sanguines à vie. Donc, en voulant l'aider, sans le savoir, ben, j'ai cheminé dans l'engagement pour vers cette cause-là. Parce que lorsqu'il est né, je me souviens que l'une des premières choses qui m'est arrivée, c'est lorsque l'infirmière s'est mise devant moi et elle m'a dit... Vous savez, votre enfant va avoir besoin de sang très régulièrement dans sa vie, et ce n'est pas sûr qu'on ait du sang pour lui. Alors j'ai demandé, ben non, comment est-ce qu'on va faire? Elle me dit, ben c'est à vous de faire le travail, trouver des gens qui peuvent faire des dons de sang, et puis nous en échange, on va lui garder toujours une poche ou deux de sang à l'hôpital. Alors vous imaginez un peu pour un parent,
oui,
qu'on vous mette cette responsabilité. En général, vous allez voir le médecin, on vous donne une prescription, vous allez acheter des médicaments. Mais là...
On vous demande de trouver du sang.
Du sang.
Pour
et
votre
avec
enfant.
La culture.
Excusez-moi, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes porteur sain?
Oui.
D'accord, c'est donc cette raison. Mmh. Et mon autre question qui vient après, c'est... il y a aussi... est-ce qu'il est d'un sang qui est facile à trouver?
Exactement.
Difficile
c'est
à trouver.
Ouais. C'est l'un des défis qu'on a.
Ah oui?
Parce
que c'est ça
avec
aussi.
Le sang. Oui.
Oui, on vous laisse continuer. Allez-y. Oui, oui.
Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, ben, particulièrement dans le contexte où nous vivons, parce qu'il faut aussi dire qu'on vit au Canada, où la majorité des gens qui ont cette maladie viennent de l'Afrique subsaharienne ou des pays méditerranéens, quelques-uns, et puis de l'Arabie saoudite. Donc, c'est clair qu'ici, on fait partie donc, du groupe des minorités visibles. Alors, cette communauté particulièrement qui n'est pas nombreuse, les gens qui ont cette maladie, ils ont besoin de sang phénotypé. Ça veut dire que lorsqu'on leur fait des transfusions sanguines, l'idéal serait pour eux d'avoir du sang d'une personne de race noire comme eux ou de leur, groupe ethnique. Mmh. De leur groupe ethnique. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque ici. On a de la misère pour avoir. C'est les institutions comme EMA Québec au Québec et puis CBS, Canadian Blood Services dans le reste du Canada.
Qui s'en occupent.
Qui s'en occupent. Mais il faut qu'ils aient des donneurs qui viennent volontairement pour donner le sang. Et c'est ça.
Et la communauté noire ne se déplace pas vraiment pour donner du sang. Mais
est-ce qu'ils le savent vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment informés? Parce que c'est une maladie, vous l'avez dit vous-même, qui est très peu connue. Est-ce qu'il y a de l'information pour tous ceux qui ne sont peut-être pas au courant et qui viendraient donner leur sang pour ça?
Oui, oui. C'est un travail qu'on fait à longueur d'année. Les associations de patients partout au Canada, nous sommes tout le temps en train de sensibiliser dans tous les événements possibles, dans les organismes communautaires, les associations. À chaque fois que nous avons l'opportunité, comme aujourd'hui, c'est de dire aux gens de la communauté qu'il est important de donner du sang parce que vous êtes capable de sauver une vie,
oui,
et plusieurs vies d'ailleurs. Parce que je vais vous donner l'exemple de mon fils qui est aujourd'hui un adulte. Il n'a pas de médicaments pour lui, pour le soigner ou pour contrôler la maladie. Il vit uniquement, il repose sur des échanges de sang aux 8 semaines. Alors, 8 semaines, il faut qu'il rentre à l'hôpital pour une journée, puis on lui met environ 8 kilos de sang. Et ça, si ça lui prend, et si, par exemple, on lui donne du sang qui n'est pas phénotypé, eh bien, il peut faire des réactions graves et qui peuvent lui être fatales. Alors, le défi qu'on a, c'est que vous savez que les gens qui viennent des régions endémiques où il y a le paludisme ne peuvent pas donner du sang aussi ici.
C'est vrai, ça aussi.
Ben oui. Même ceux qui viennent de la France, parfois à cause de la vache folle, ils ne peuvent pas donner aussi du sang. Alors, il y a beaucoup de restrictions, ce qui rend notre travail beaucoup plus difficile, mais pas impossible. Les jeunes de la deuxième génération, ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui n'ont pas vécu dans ces zones, sont capables de donner du sang. Alors, c'est eux qu'on essaie de rejoindre par notre message pour leur dire, engagez-vous, c'est une forme d'engagement social, c'est une forme de soutien à votre communauté, donnez du sang. C'est gratuit, vous le régénérez facilement et vous sauvez des vies.
Merci.
Moi, je ne sais pas ce que je... Là, vraiment, c'est... Bon, donc, sont la plupart des gens, des patients, mais les Québécois blancs aussi qui ont cette maladie.
En fait, en général, les gens caucasiens n'ont pas la maladie.
En général.
Les caucasiens n'ont pas la maladie. Ils n'ont pas la maladie. À moins qu'il y ait du métissage quelque part.
À moins qu'il y ait du métissage. Parce que ce que j'ai vu, selon ce que j'ai trouvé aussi sur les sites de Santé Québec, là, Santé Québec, l'Afrique, la Méditerranée, les Caraïbes, le Moyen-Orient, et puis certaines régions de l'Aisne et de l'Amérique du Sud.
C'est ça.
Restez avec nous. On va faire une petite pause musicale. Et puis, on va continuer avec vous pour la deuxième partie de la conversation.
D'accord. Justin Bieber.
I won't let the night stand in my way. No. I know what I want. No, I can't. Yeah. I'm only here to find you. All I need is you by my side. All I wanna do is spend my life with you. Cause all I need. No, not today. Won't leave till I find what I'm looking for. I'm only here to find you. All I need is you by my side. All I wanna do is dance under the moon. Cause all I need is one love.
Justin Bieber, One Love. Madame Ting.
Oui.
Voilà, on va continuer avec cette maudite maladie qu'on appelle la maladie orpheline. Et puis, lors de notre petite conversation téléphonique, il y a deux jours, vous m'avez fait comprendre que les médecins qui sortent des facultés de médecine ne connaissent même pas cette maladie.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, vous savez, étant donné que donc, vous voyez la population qui est atteinte par cette maladie, alors c'est un peu considéré comme une maladie qui vient d'ailleurs,
oui.
Qui est venue avec l'immigration, donc ne fait pas partie vraiment du curriculum donc, du programme. d'enseignement, que ce soit pour les médecins, les infirmières, même si on parle aussi des assistants sociaux, parce que vu le nombre de complications qu'ils vivent, ils ont besoin de plusieurs corps de métier pour s'occuper d'eux. Alors, c'est l'un des défis et c'est une des choses aussi qu'on essaie de changer en sensibilisant, en contactant certaines écoles pour parler de la maladie. Et surtout, en tant qu'association, ce qu'on fait, on organise des séances où on invite les jeunes qui sont en formation. On leur présente des patients qui racontent leurs histoires, des parents comme moi qui partagent notre expérience de vie pour les amener à s'intéresser à ce domaine-là lorsqu'ils vont se spécialiser, parce que ça prend des hématologues, oncologues pour soigner ces gens-là. Parce que cette maladie s'apparente beaucoup à la leucémie. D'ailleurs, un des médicaments qu'on utilise, c'est le médicament qui traite la leucémie. C'est ça qu'on donne en long terme aux gens qui ont l'anémie falciforme.
Oui.
Donc, c'est comme ça.
Oui, vous êtes la présidente de l'Association d'anémie falciforme du Canada au niveau fédéral. Est-ce que vous avez contacté le gouvernement fédéral? Quelle a été leur réaction?
Oui. Alors, l'organisation, lorsqu'elle a été créée, l'une de nos premières actions, c'est de nous rendre à Ottawa et de demander beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de besoins qui ne sont pas pris en charge.
Oui.
Alors, l'une des premières choses qu'on a demandé, c'était un registre national pour l'anémie falciforme. Pourquoi un registre? Parce qu'il faut d'abord qu'on sache qui sont ces patients, combien ils sont, où est-ce qu'ils habitent, et puis quel est leur type de diagnostic, parce qu'on a plusieurs formes. Il y a SS, SC, et donc on essaie de les répertorier dans un répertoire qui permette aussi aux professionnels de la santé d'avoir l'information nécessaire pour la recherche et pour leurs soins.
Oui.
Et on s'est fait dire, attendez, on ne sait pas d'abord ce que c'est que la maladie, commencez d'abord par nous en parler et ensuite on va parler des besoins qui viennent avec cette maladie-là. Ce que nous avons fait pendant 3 ans, nous sommes rendus à Ottawa pour sensibiliser. Donc nous avons obtenu la reconnaissance du 19 juin.
Juin 2020.
On l'a obtenu en 2017 parce que c'est la journée de sensibilisation mondiale qui a été mise, et ça c'est les Nations Unies et l'OMS qui l'ont recommandé. Mais le Canada est l'un des premiers pays à voter un projet de loi, ce qui est une bonne chose, un bon début.
Un bon début,
nous avons besoin de plus que ça.
Oui.
C'est une maladie où nous n'obtenons aucune forme de soutien. Il n'y a pas il y a quelques fonds, je dirais, qui sont alloués à travers le programme fédéral pour faire de la recherche, mais vous savez, il n'y a pas l'intérêt des chercheurs pour aller faire de la recherche.
Parce que ça n'atteint pas des millions de Canadiens. Seulement, environ, selon les infos que j'ai, c'est à peu près, disons, environ 6000 personnes au Canada qui sont atteintes de cette maladie.
Oui, environ 6000 personnes. Ce qui n'est pas une grande population, mais je dirais que il y a plus de personnes qui ont l'anémie falciforme que la fibrose cystique, qui a 4300 personnes. Pourtant, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour cette maladie-là.
Oui.
Alors, la question que moi, je me serais posée, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'obtenons pas de subvention du gouvernement pour que même le dépistage néonatal en ce moment, nous avons fait du lobbying, nous avons été à Ottawa pour demander, mais il y a encore 2 provinces qui ne testent pas pour la maladie. Il y a Saskatchewan et le Manitoba qui ne testent toujours pas. Et il y a aussi...
Le Québec le fait.
Le Québec le fait de façon partielle dans des zones. Ils ont commencé d'abord dans des endroits où la majorité des populations donc cibles résident. Et l'Ontario le fait. Toutes les autres provinces ont commencé progressivement, mais il nous reste 2 provinces et nous travaillons toujours à cela pour l'obtenir parce que la prise en charge très tôt permet donc une meilleure qualité de vie et puis donc permet d'éviter des complications.
S'il y a quelqu'un qui nous écoute là, qui aimerait venir à l'aide à l'association, qui voulait faire un geste, un don, comment on vous contacte, comment on vous joint?
Écoutez, si vous vous rendez sur notre site internet, qui est en anglais, Sickle Cell Disease d'Atier, il y a un lien pour nous faire des dons, et puis nous sommes un organisme de charité. Si la personne veut faire un don, elle peut le faire, et un reçu d'impôt lui sera immédiatement délivré.
Oui.
Mais nous avons aussi besoin de gens qui ont de l'expertise. Nous avons besoin de gens pour venir, des volontaires pour travailler avec nous, parce que pousser une cause, ça prend du monde, ça prend de l'engagement, et puis ça prend une équipe. Ça prend une équipe, donc tout le monde est le bienvenu. Si vous êtes capable d'organiser des collectes de sang, lorsque cette pandémie va nous permettre d'être en personne dans des endroits, ce serait bien, parce que l'Association du Québec le fait. Ils organisent beaucoup de collectes de sang dans l'année, dans les églises, le dimanche ou dans les centres communautaires. Ça aussi, c'est un besoin pressant.
Oui.
Alors, il y a plusieurs formes d'apporter son aide pour nous.
Et comment va la coalition ou bien la collaboration avec Emma Québec concernant la collecte de sang?
Oui, ça va très bien. Ça va très bien parce que ça fait des années déjà que l'organisme provincial donc du Québec, l'Association de l'administration des femmes du Québec, travaille avec eux. Je dirais que d'ailleurs, c'est eux qui ont un peu poussé Emma Québec à commencer à faire des collectes les fins de semaine parce qu'ils ont eu à leur dire que si vous voulez joindre cette communauté, il faut aller à leur rencontre et il faut peut-être adapter vos horaires aux autres parce que c'est une communauté qui travaille en semaine, puis peut-être que la seule journée où ils sont disponibles, c'est le dimanche après l'église. Alors les collectes de sang dans les sous-sols d'église ont commencé sous l'initiative de M. Wilson Sanon, qui est le président provincial. Alors, on continue aussi dans les autres villes. On a un numéro de partenaire pour la vie avec CBS. Ce numéro-là, on le partage partout sur nos sites Internet, sur notre page Facebook. Et n'importe quelle personne qui prend ce numéro et s'enregistre et fait un don de sang, immédiatement, ce don est rattaché à l'anémie falciforme. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui a l'anémie falciforme qui va utiliser ce sang, mais ça montre les efforts que nous faisons dans la communauté pour sensibiliser les gens à la maladie et à donner du sang. Et chaque année, moi, je reçois un rapport qui me dit « Tant de personnes ont donné du sang utilisant votre numéro de partenaire pour la vie. » Puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que les gens soutiennent ces personnes-là. Quand on repose que juste sur le sang des autres pour survivre, imaginez comment votre vie peut être toujours… Ça fait du stress.
Vous répondez un petit peu à ma question, c'est ce que j'allais vous demander. Comment, c'est une question de survie, donc à un moment donné, comment se passe cette maladie? C'est qu'à un moment donné, il faut avoir du sang beaucoup régulièrement. Comment ça se passe dans le détail, si j'ose dire?
Dans le quotidien de chaque malade.
Dans le quotidien, oui, pardon.
C'est ça. Une des choses, je dirais pas que c'est une des choses qui est assez particulière avec cette maladie, c'est qu'elle se manifeste vraiment de façon différente selon les personnes. Alors, ce n'est pas toutes les 6 000 personnes qui sont atteintes qui sont sous transfusion sanguine. Pour certaines d'entre eux, l'hydroxyhydria dont je parle, le médicament dont j'ai parlé, fonctionne. Mais ils le prennent à vie tous les jours, c'est des prises quotidiennes. Mais c'est comme si vous faites une chimiothérapie à vie.
Oui,
c'est
comprends.
Ça l'autre option. Et pour d'autres, comme mon fils, dont ce médicament n'a pas fonctionné, il l'a pris pendant quelques années, puis ça a cessé de fonctionner. Alors, le dernier recours, ce sont ces échanges de sang. Alors, c'est fait avec, ça s'appelle, en fait, le processus s'appelle l'aphérèse. On vous enlève simultanément le sang, qui n'est pas bon, puis on vous en remet en même temps.
Du sang neuf.
Du sang neuf. Alors, vous êtes branché à une machine pendant une heure, et puis le processus se fait. C'est très demandant pour le corps.
Oui. C'est très douloureux
parce qu'après,
aussi.
Très douloureux. Il est au lit pendant une journée après ça, puis après, bon, ben, il reprend. Et puis, s'il ne l'a pas, il ne peut pas, il peut pas tenir. Oui. Par exemple, mon fils ne peut pas aller en Afrique s'installer, il ne peut pas aller vivre ailleurs maintenant.
Ils n'ont pas le droit de voyager. Ils n'ont pas le droit de voyager.
Mais, ils peuvent voyager, mais si jamais il y a une crise, il y a des risques. Donc, ça fait longtemps qu'il ne sort pas tellement de l'Amérique du Nord.
Oui.
Il limite ses déplacements. Puis s'il va même dans d'autres pays en Europe, même s'ils peuvent le faire,
merci beaucoup.
Il y a le problème des assurances. Il y a beaucoup de choses.
Merci beaucoup, Madame Tinga.
En tout cas, merci de nous avoir parlé de cette
maladie. Président de l'Association d'anémie falciforme du Canada. Merci beaucoup. On va à notre manière ici aussi de temps en temps revenir là-dessus, bien sûr. S'il y a des nouveautés, n'hésitez pas de nous recontacter. Beaucoup de courage. Et
merci
puis,
beaucoup.
Avec plaisir.
Merci,
et puis,
merci à vous.
Ouais.
Merci
à vous.
Ton bac, c'était sauvage. Je guette la cive des arbres, les pieds dans le marécage. Monter des marches, gravir des étages. Ça demande de la volonté, du calme dans un esprit sage et sage de garder le cap, dater le terrain. Confiant dans mes pas tant que je me souviens. Faut pas griller l'étape ni forcer le destin. Avant que je parte, je garde d'où je viens. Tout ou rien, ici c'est la loi de la jungle. Moi je me sens pas si terrien, très bien. Je grimpe même si c'est casse-gueule. Je veux viser la canopée. Essayer d'y voir plus clair. Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai mieux que sur terre. Et ouais, je veux viser la canopée, essayer d'y voir plus clair. Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai mieux que sur terre. Ouais, ici on soigne à la plante tropicale, mystique elle est optimale, profite du repos dominical. On chante, on chill entre cigales, j'irai me poser en haut d'un séquoia, planté aux sources de Sophia. Plus grand que l'Himalaya, plus vieux que le peuple maya. Les baobabs sont des buildings, beaucoup de poulets un peu trop. De belles gazelles qui se dandinent, et des loups qui montrent leur peau. Les serpents nous hypnotisent, et les rapaces ne veulent que notre peau. Beaucoup de terrains nous enlisent, et nos liens sont des lines de métro. Je veux viser
stratégie serait de Dieu sur terre. Et ouais, je peux viser la canopée. Essayer d'y voir plus clair. Oh, oh, oh. Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper. J'y serai mieux que sur terre. Et... juste de tenir les distances. L'adrénaline est un effet puissant. Je cherche des prix sans réticence. Tout peut arriver, n'y a pas d'évidence. Mais l'inconnu, ça peut être excitant. C'est pas la chute qui compte, c'est la résistance. Et si je tombe, je recommence. D'en bas de cette terre sauvage, je guette la cime des arbres, les pieds dans le marécage. Monter des marches, ha, gravir des étages. Ça demande de la volonté, du calme dans un esprit sage. C'est viser la canopée. Essayer d'y voir plus. Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai mieux que sur terre. Et ouais, je veux viser la canopée. Essayer d'y voir plus clair. Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai mieux que sur terre.
Volodia, un de mes chanteurs reggae français préférés d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas écouté. Il est déjà connu sur les ondes du Canal M. La canopée, voilà. J'aime bien ça. Alors, on est tout doucement. Ouais,
on arrive à la prochaine demi-heure.
Oui, on a la fin de la première demi-heure.
Et on va avoir, on va donc parler de Telle Aide Montréal. On va apprendre un petit peu... où on peut s'adresser pour ceux qui ne connaissent pas et ce qu'on peut faire pour être aidé.
Ça va dans le même sens.
Ou pour être aidant.
Oui.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors, on va partir en musique avec Vianney qui nous fait une reprise d'Il n'y a plus d'après, une chanson de Guy Béard et qui a été aussi chantée par la fabuleuse Juliette Gréco. Donc, on écoute Vianney.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es une autre, c'est que je suis un autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autrefois. À vivre au jour le jour, le moindre des amours. Prenez dans ces ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fois.
Anne Lagacé-Dawson, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Anne.
Donc, bonjour, merci de m'accueillir chez vous.
Ben, ça nous fait plaisir. Vous êtes directrice générale de Tel Aide à Montréal.
Exactement.
Et pour en parler justement, enfin, on a fait la présentation un petit peu au début, je voudrais qu'on revienne sur l'historique.
D'accord. Alors, Tel Aide Montréal a été fondée en 71, donc l'an prochain, on va fêter le 50e anniversaire.
Ah oui, quand même, hein?
Un demi-siècle.
Oui. Oui, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est,
oui.
C'était un peu un groupe pionnier à l'époque. Là, maintenant, il y a quand même plusieurs centres d'écoute à Montréal et partout au Québec. Mais l'idée étant que les gens avaient besoin d'une ressource pour se confier sans se faire juger, sans se faire dire quoi faire. Et ça, l'idée, c'est de suivre les idées de Carl Rogers, le psychologue américain, qui disait que les individus ont souvent en eux la solution à leurs propres problèmes.
Tout le temps, moi, j'ai envie de dire.
Oui, mais ils ont de la difficulté des fois à avoir assez de confiance, à avoir des gens qui les écoutent. Donc, nous, on pratique de l'écoute active. Et en 71, Tel Aide Montréal a été fondée par deux membres du clergé anglican et de l'Église unie, selon le modèle du Samaritan en Angleterre, qui a été le premier centre d'écoute comme ça, ouvert à tous, confidentiel, anonyme, gratuit.
Alors, on peut dire aussi, j'ai lu, par exemple, que le premier poste d'écoute qui a été ouvert, et c'était celui de Montréal.
Ah, ça
en fait.
Oui,
vous voyez, je vous apprends quelque chose, et bien comme ça, vous le savez.
Mais le Samaritain, je crois que ça existe depuis longtemps en Angleterre. Et l'idée, c'est que c'est vraiment important de donner aux familles, aux amis, aux psychologues, aux thérapeutes, un peu le répit et parler à ses pairs.
Parce oui, je comprends.
Parce que nous, on a des bénévoles qui répondent aux appels, des bénévoles qui ont été formés en écoute active, mais ce ne sont pas des thérapeutes, ce sont des voisins, des amis, des concitoyens.
Alors, c'est un organisme à but sans but lucratif et
exactement.
Donc qui permet d'avoir gratuitement un service d'écoute. Qui est-ce qui appelle? En fait, on peut dire que n'importe qui peut appeler. On peut avoir des questionnements. Les questionnements ne sont pas par ordre de difficulté. Tout le monde peut appeler.
Exactement. Et le numéro de téléphone, je vais le donner à ceux et celles qui pourront pouvoir s'intéresser à ce service, c'est 514-935-1101. Donc,
935-1101.
C'est ça, 1101. Il y a toutes sortes de monde qui appelle. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des personnes qui ont peur de la COVID, il y a des gens qui ont des historiques de difficultés en santé mentale, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui vivent avec de l'angoisse, ou d'autres troubles reliés à l'angoisse ou problèmes psychiatriques. C'est vraiment un grand éventail. Et là, depuis quelques années, on sait qu'il y a beaucoup moins de stigma ou de négativité autour des différents problèmes reliés à la santé mentale. Donc, nous, on est là pour écouter, on ne donne pas de directives. Si les gens nous demandent des références, on peut leur en donner. Mais de prime abord, nous, on est juste là pour écouter, pour valider, pour accompagner.
Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, dans le moment particulier aussi dans lequel on vit, il y a beaucoup d'appels sur la solitude?
Oui, ça c'est une constante depuis des années d'ailleurs.
C'est une constante, d'accord.
L'isolement, ça revient souvent dans nos rapports d'écoute. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un appel, on remplit un rapport d'écoute, mais on n'a pas le nom ni le numéro de téléphone de la personne qui appelle. Et on collige des statistiques. Et l'an dernier, on a répondu à 17 000 appels, dont 17 000. L'isolement ou la solitude figurait quand même de façon importante.
Et puis peut-être aussi, vous devez avoir certainement des jeunes gens, parce que des fois, être parent, ce n'est pas toujours facile. Et ça peut être plus facile de parler à un ou une inconnue qu'à ses propres parents.
Oui, en effet. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui nous appellent, qui nous disent qu'ils se sont fait dire par leur mari, par leur fille, par leur conjoint d'appeler à telle aide parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, on offre un peu un service oui. de répit aux amis. Et parfois, le 911, le 811 et le 211 vont suggérer aux gens qui leur font appel de nous contacter. Et les psychologues, parfois, vont dire à leurs clients, mais là, puisque votre rendez-vous est dans une semaine, je vous conseille d'appeler telle aide. Alors, c'est quand même, c'est un service qui est complémentaire au service de la santé, mais on n'a pas d'experts. On a des gens de bon cœur qui sont formés en écoute active, qui font 50 heures de formation et d'accompagnement avant de oui. commencer à répondre.
J'allais vous poser la question après, mais c'est vrai, on va en reparler. Mais la question que je me pose aussi, c'est la suivante. Est-ce que quand quelqu'un appelle et commence à discuter avec une personne, on se retrouve avec, en rappelant une prochaine fois et une prochaine fois, toujours avec le même écoutant, ou ça change, ça peut changer?
On a environ 120 écoutants bénévoles qui font des quarts d'écoute de 4 heures. Et d'accord. donc, il y a beaucoup de variabilité dans les bénévoles qui vont répondre au téléphone. Et on ne sait pas vraiment à qui on va faire affaire. Puis en plus, on répond en anglais et en français.
Ah oui, c'est vrai, alors, j'ai lu ça, oui.
C'est ça. On opère dans les deux langues. On a une ligne de réponse pour les anglophones et une autre pour les francophones. Puis on a une troisième ligne bilingue où les bénévoles qui sont à l'aise dans les deux langues prennent des appels dans les deux langues.
Oui, ça ne doit pas être toujours facile, non pas de parler dans les deux langues, mais ça ne doit pas toujours être facile de garder la distance avec ceux qui appellent et qui sont qui vivent un drame hein, au moment où ils le vivent, et de pouvoir se retenir en étant juste dans l'accueil, l'empathie et ne pas prendre part à ce qui leur arrive.
Mm-hmm. Donc, c'est ça le défi pour les bénévoles en écoute active. Oui. C'est qu'on est là pour être présent, pour valider, mais on n'est pas là pour prendre une position quelconque. Merci. Et ça, parfois, ça peut être difficile. Puis il y en a qui appellent vraiment en larmes, qui sont vraiment bouleversés par ce qui leur arrive. Si ces personnes-là, par contre, nous demandent qu'est-ce que je devrais faire, à qui je devrais parler, alors à ce moment-là, on peut suggérer d'appeler d'autres ressources.
Mais je parlais en tant qu'individu des fois, mais on va en parler tout de suite après, parce que je veux revenir sur les bénévoles, parce que c'est vraiment très important aussi. Là, on va faire une petite pause musicale, si vous le permettez. Donc, on va écouter Ariane Zita qui nous chante « Comme une tempête ».
On ira où le temps s'arrête.
Alors, nous sommes toujours avec Anne Lagacé-Dawson. Donc, vous avez entendu... Fulgence, tu avais une question à poser à Anne?
Oui, oui. Anne?
Oui?
Je voudrais savoir comment vous êtes arrivée dans ce milieu-là.
Ah! Très bonne question. Mais moi, j'ai fait une maîtrise en histoire sociale. J'ai été journaliste assez longtemps. Puis je me suis toujours intéressée aux problèmes reliés aux gens qui sont comme non affranchis ou dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc, c'est ça. Je suis toujours intéressée par la justice sociale sous toutes ses formes. Puis là, je me suis dit que ce mandat-là, ce travail-là est super important. Moi-même, j'ai vécu des moments assez difficiles. Je suis passée par un moment de dépression. Je viens d'une famille où il y a plusieurs alcooliques. Et on est tous entourés par différentes manifestations du mal à vivre. Alors, l'idée que les gens puissent se faire former par des formateurs experts et puissent devenir écoutants. Excusez, il y a un appel qui rentre, excuse-moi. Peut devenir écoutant et utile à ceux qui souffrent, ça m'a beaucoup plu. Alors, c'est un peu comme ça que je suis embarquée.
Alors, comment ça se passe avec les bénévoles? Et puis, d'autre part, quand des moments, vous avez des appels qui peuvent être plus cernés vers d'autres institutions, est-ce que vous les renvoyez là-bas?
Ah, ça dépend de ce que la personne exprime comme désir ou besoin. On reçoit des appels de gens qui sont à Pinel ou qui sont au Douglas, mais on reçoit des appels de gens qui sont dans leur voiture en allant au travail ou dans un stationnement en train de pleurer dans leur voiture.
Ah oui.
Alors, les bénévoles sont devant toutes sortes de différentes manifestations de besoins de s'exprimer. Il y en a qui appellent à peu près à tous les jours juste pour prendre des nouvelles puis se dire bonjour à quelqu'un.
Ah oui,
alors,
oui, bien
sûr. Il y a vraiment une variabilité énorme dans le contenu des appels.
Qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que vous demandez pour accepter des bénévoles? C'est-à-dire n'importe qui peut venir, on suit des cours?
On est quand même assez rigoureux. Il faut faire une demande sur notre site web.
Oui.
Après, on fait venir ceux qui voudraient devenir bénévoles en entrevue. Et après, il y a une formation d'une cinquantaine d'heures avant d'embarquer sur...
Oui.
Alors, c'est quand même assez exigeant comme formation. Et c'est quand même assez exigeant comme bénévolat aussi. Mais je crois que c'est assez enrichissant. Puis en plus, on a une vie communautaire à l'intérieur de Telaide. On fait des formations continues. On fait des Zoom lunch. Là, on a lancé un projet d'écoute à distance qui permet à nos bénévoles d'écouter sur ordinateur ou sur téléphone cellulaire chez eux dans une pièce fermée pour permettre à ceux qui sont mal à l'aise à prendre les moyens de transport ou ne peuvent pas venir dans le centre d'écoute de faire de l'écoute quand même, ce qui est fort intéressant et ce qui nous a vraiment beaucoup aidé pendant la pandémie parce que nous, on est considérés comme étant un service essentiel par le ministère de la Santé qui nous finance, en fait, aussi. Donc, on est un peu financé par les contribuables et les citoyens pour aider les citoyens.
Est-ce que c'est 24 heures sur 24?
Oui.
D'accord.
Oui, en effet, oui. Puis, je vais juste rappeler à ceux et celles qui écoutent, c'est vraiment, nous, on est à Montréal, 514-935-1101, mais il y a partout au Québec d'autres télèdes. Il y a un réseau de centres d'écoute téléphonique du Québec, qui regroupe à peu près 22 centres d'écoute. Il y en a partout là, en Estrie. Et justement, le 24 octobre, on fête le jour de l'écoute avec nos amis de l'Association des centres d'écoute téléphonique partout au Québec.
D'accord.
Vous allez peut-être entendre parler de ça plus on approche du 24 octobre.
Ben, j'espère bien qu'on va en entendre parler. Fulgence avait une autre question pour
vous.
Oui,
j'avais une autre question parce que elle a juste posé un peu cette même question. Le recrutement, les critères pour le recrutement des bénévoles. Bon, on ne parle pas de recrutement. Comment est-ce que vous les acceptez? Il faut avoir un mental d'acier aussi pour pouvoir écouter ces différents problèmes des gens parce que si on est déjà soi-même dépressif ou bien anxieux de nature, on ne peut pas se permettre d'écouter les autres problèmes, les problèmes des gens. Qui vont appeler.
Non, c'est ça, c'est sûr. Il faut que l'écoutant soit en mesure de mettre une certaine distance amicale entre sa situation à elle et les appelants.
Oui.
Et ça, c'est pas tout le temps évident. Il y a des gens qui seront peut-être mieux équipés ou mieux en mesure de prendre des appels que d'autres. Il y a toutes sortes de bénévoles en santé mentale. On n'est pas obligé de faire de l'écoute. On peut faire autre chose pour venir en aide aux gens qui sont en difficulté. Alors, c'est un peu ça qu'on essaie de regarder quand on fait les entrevues, quand on fait la formation, puis on essaie d'équiper nos bénévoles pour pouvoir faire face aux situations un peu plus difficiles, un peu plus pénibles, et on fait de l'accompagnement. Il y a des écoutants qui sont beaucoup plus expérimentés, qui font de l'accompagnement pour les nouveaux, et il y a des formations continues qu'on offre pour mettre à jour et tenir les bénévoles pour les soutenir, parce que parfois, ça peut être quand même assez demandant d'être à l'écoute.
Oui, c'est sûr. Justement, qu'est-ce qui peut, comme vous, dans la réponse que vous venez de donner, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à part répondre au téléphone? De quoi avez-vous besoin d'autre en bénévolat?
Oh, mais nous, on tient vraiment un service d'écoute. Mais il y a d'autres groupes qui offrent des services connexes, des ateliers, etc. Là, par exemple, nos amis à Telle Écoute, eux, ils offrent des ateliers pour différentes causes et ils parlent de différents sujets. Il y a Face à Face qui offre un service d'écoute, mais qui s'occupe surtout des itinérants, des personnes qui n'ont pas d'abri, des sans-abri.
Oui.
On fait partie d'une communauté d'entraide qui est financée par le CIE, c'est le ministère de la Santé, pour venir en complément aux services de santé. Alors, nous, on désengorge les services d'urgence et les bureaux de travailleurs sociaux au CLSC, en fait. C'est un peu pour ça qu'on est financé. Et on essaie d'aider tout en soutenant les gens qui ont besoin d'aide plus structurée. Parce que là, on remplace pas le système médical. On vient en complément au service médical.
En tout cas, bravo pour ça. C'est une belle, c'est une belle énergie et beaucoup de travail à faire, en même temps de passion. Est-ce que, une dernière question avant qu'on se quitte, et ça c'est pour vous personnellement, est-ce que vous arrivez à débrancher quand vous rentrez chez vous, ou vous vivez toujours telle aide de tous les jours et même chez vous après?
Oh, mais là, ça c'est... Moi, j'ai toujours été un peu workaholic, donc...
Oui,
c'est pas évident, c'est une bonne question. Et surtout en pandémie, je pense qu'on est nombreux
difficile à
vivre un plus haut... C'est très anxiogène ce qu'on vit avec la pandémie. L'ennemi est invisible, le virus est partout. Donc, un service comme TeleAide et d'autres est très, très utile. Il faut pas que les gens se sentent gênés, parce que ceux et celles qui ont de la difficulté à gérer l'angoisse, Il faut qu'ils sachent vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul avec ça. On est solidaire avec vous. On vit à peu près les mêmes choses et on veut aider le plus possible. Alors, il faut vraiment que ce message-là passe et que les gens ne se sentent pas du tout gênés à nous appeler à notre numéro 935-1101.
935-1101, on le redit.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette entrevue.
Merci.
Puis j'espère que vous allez en faire plein d'autres. Justement pour cette aide aussi. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation, en tout cas.
Merci. Au plaisir.
Et puis au plaisir de vous réentendre une prochaine fois avec d'autres nouvelles, peut-être même des meilleures encore.
C'est ça. Merci.
On s'en va avec au revoir avec Grand Corps Malade.
L'ultime nuance vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. L'ultime nuance vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 ans.
J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux je serai joyeuse, avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après quand t'as une femme, t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton porc.
J'aurai du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçons comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur.
Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps, d'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor.
Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. Je dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. Dis-les l'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine.
Voilà, c'était Grand Corps Malade et Suzanne. Pendant 24 heures, on échange. Je suis une femme, tu deviens une femme, je deviens un homme. L'espace de 24 heures. Peut-être qu'on en apprendrait des choses, ça serait pas mal,
oui,
ça à faire.
Oui, chacun a joué le rôle de l'autre.
Ça serait bien.
Oui,
bienvenue.
Grand Corps Malade en haut talon.
C'est pas l'histoire du physique, c'est de tout ce qu'on doit porter en tant que femme et de tout ce qu'on doit porter en tant qu'homme. Ça serait bienvenu des fois de... se l'entendre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, Fulgence.
Oui, c'est fini, on n'a pas deux heures, c'est... une heure d'émission. On dit merci à notre premier invité, Biba Tinga, qui est la présidente de l'association d'anémie falciforme du Canada.
Et merci à Anne Lagacé-Dawson, qui est avec nous pour Telle Aide Montréal. Merci Maurice Bolduc.
Merci à toi.
Merci à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Et soyez nombreux pour être là demain avec nous encore. Merci Fulgence.
Ah, merci à toi et
à
puis
demain.
Bon ben, oui.
On se dit à demain.
Non, je te dirai pas non. C'est toi qui as voulu
me faire
le coup
hier. Tu prends ma réponse. Hein. Voilà. Allez, bye bye à
Allez,
tous.
Salut, au revoir à tous.